le Chinuch, il explique que le décompte, ou le compte des jours du Homer, c'est une façon de faire un lien entre Pessah et Shavuot. Et on avait remarqué que le compte ne commence qu'au deuxième jour de Pessah. Imachorat à Shabbat qui est Pessah, c'est-à-dire le lendemain du jour où on a mangé le Korban Pessah, on commence à compter. Parce qu'on amène le Homer et on commence à compter. Les jours, la fête de Pessah, bonsoir. La fête de Pessah, c'est Zman Cheruteinu. C'est le temps de la liberté. De notre liberté. D'un autre côté, il y a un Chazal qui dit il n'y a de liberté en Cherut et la Charut à la Luchot. Il n'y a de liberté que avec ce qui est gravé sur les tables. Les tables de la loi qu'on a reçues, enfin, qu'on aurait dû recevoir. Hein. On a reçu la Torah à Shavuot, on aurait dû recevoir ensuite les tables de la loi, mais bon, ça s'est mal passé. Sur ces tables de la loi, les choses, il y a deux tables distinctes, pas du tout comme on le représente, comme s'il y avait deux tables collées l'une à l'autre, c'est deux tables distinctes, avec cinq mitzvot d'un côté, cinq paroles d'un côté, cinq paroles de l'autre. Et c'est gravé. Et le mot gravé en hébreu, il se dit charut. Chet, resh, vav, tav. Or, ça se lit aussi bien chérut que charut. Et chérut, ça veut dire la liberté. Donc, en soi, c'est déjà un petit peu curieux parce que ce qui est gravé, c'est la chose la plus figée qui soit. C'est-à-dire, dans l'écriture, on peut pas, quand on grave, c'est plus figé quand on a gravé que quand on a écrit, simplement. Si vous écrivez sur une certaine surface, ou ensuite, la plupart du temps, on peut effacer. Si vous gravez, on peut plus effacer. Mais, le cas échéant, on peut couper dans la tranche du support, et enlever toute la partie supérieure jusqu'au point où est arrivée la gravure. Et donc vous avez ensuite un support vierge. Mais il se trouve que les tables de la loi, elles sont écrites, gravées de part en part. Donc il n'y a plus de différence entre le support et le texte, si vous voulez. Et donc, c'est aussi figé qu'on peut imaginer. Et que le figé corresponde à la liberté, c'est un peu paradoxal. Mais en tout cas, on voit que Shavuot, c'est le summum de la liberté. La vraie liberté, c'est la liberté qu'on a avec la Torah. Or, il n'empêche que Pessah, c'est Zman Cheruteinu, le temps de la liberté. Et du coup, si on regarde les choses, si je regarde tous les jours de la fête de Pessah, eh bien, tous les jours de la fête de Pessah, on compte l'Homer, donc on est en relation avec Shavuot. Sauf le premier jour. Le premier jour où on apporte le Korban Pessah, on ne compte pas l'Homer. Le numéro 1, le chiffre 1 qui est prononcé dans le compte du Homer, c'est quelque chose qui est dit le deuxième jour de la fête de Pessah. Donc ça veut dire qu'en fait, Là aussi, comme je vous l'avais fait remarquer, là aussi, on est dans le domaine du deux. La liberté, elle est présentée en deux temps. Tout ce qu'on a vu, pratiquement, est toujours présenté en deux temps. Et là, la liberté, seulement, est en deux temps. Il y a une liberté sans la Torah et une liberté avec la Torah. Donc, tout en étant clair sur là-dessus, c'est que la vraie liberté, c'est la liberté avec la Torah. Donc ça veut dire que la Torah, elle est la liberté, par excellence. Je vous ai dit, je le répète juste pour mémoire, que il y a une indication que la liberté sans la Torah, est, non seulement c'est pas parfait, mais c'est même destructeur. On en a une allusion puisque le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessah, c'est le même jour de la semaine, ce même jour de la semaine tombe Tisha B'Av. Donc l'anniversaire de la destruction du Beth Amikdash. Il y a donc un lien entre Pessah, le premier jour de Pessah, et Tisha B'Av, l'anniversaire de la destruction du Beth Amikdash. Donc on va parler un peu ce soir du côté chérout qu'il y a donc liberté qu'il y a dans la Torah. Et je vais utiliser des enseignements de Rav Volbé. Le Ramban, dans un passouk de la fin dans la fin du Sefer Dvarim, le passouk dit: Umal Hashem Elokecha et Levavcha. Hashem va circoncire ton cœur. Hashem, ton Dieu, circoncira ton cœur. La référence, c'est donc à la fin du Sefer Dvarim, c'est 36, chapitre 30, verset 6. Commentaire du Ramban. Donc c'est un assez long commentaire, mais c'est important. Zehu she'amru abba le'ta'er mesa'in oto, c'est-à-dire mavtichacha shetashuv elav bechol levavcha ve'hu ya'azor otcha. Ramban dit, ça vient te dire que celui qui vient pour bien faire, l'expression c'est Abba le Taher. Il vient pour purifier, il vient pour faire bien. Mesaïen oto, on l'aide. Tu fais une partie du travail et Hachem va t'aider. C'est une promesse que si tu, effectivement, tu reviens vers Hachem de tout ton cœur, il t'aidera. On voit ici des versets que depuis la création, comme le Rambam le dit dans Hilchot Teshuva, l'homme a la possibilité d'être tzaddik ou racha, de choisir. Kolzman à Torah, okay, donc tout le temps on nous parle dans la Torah, c'est toujours comme ça. Kedeshetiyeh laem zchut bepriratam betov ou beonesh birtsonam bera. Ça c'est durant toute la période d'application de la Torah. Donc le Ramban dit pourquoi est-ce que il faut qu'on puisse faire le mal parce que sinon il n'y a pas de mérite à faire le bien. Donc, pour nous donner un salaire pour le bien qui a été fait, il faut qu'il y ait une lutte contre le mal. Et du coup, puisqu'on peut choisir le mal, mais que c'est un choix, c'est pas obligatoire, alors là aussi, il y a une sanction sur le mal qui a été fait. Mais le Ramban dit, Aval, Imot HaMashiach, Tiye aprira batov lahem teva. Mais au temps messianique, de choisir le bien, ce sera naturel. Ça viendra de soi. Loitave lahem alev lemashe no raoui. Le cœur ne demandera pas, il n'y aura pas de désir pour des choses qu'il ne convient pas de désirer. Il n'y aura pas du tout de désir de cet ordre-là. Et c'est ça la mila, c'est ça la circoncision dont on parle. Hachem va circoncire ton cœur, dit Ramban, qui achemda ve'atava orla la lève. Le désir, l'envie, etc., c'est considéré comme une orla pour le cœur. La orla, c'est cette peau qu'on coupe quand on fait la mila. Alors, dans l'idée, c'est que si on doit faire une circoncision du cœur, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose à couper, mais pas à couper au sens physique, mais à couper au sens spirituel. Et que cette coupure-là, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus ce fameux écran. Parce que la orla, c'est un écran. Fait qu'on n'est pas en contact direct avec le corps des choses. Donc, c'est comme si sur le cœur, il y avait une espèce de couverture, un écran, qui fait qu'on ne peut pas accéder facilement au cœur. Et l'écran en question, il est constitué par le désir, par l'envie. Donc, il n'y aura plus de désir ou d'envie au sens négatif du terme quand on sera dans les temps messianiques. C'est ça qui est dit dans le verset. Mal Hashem Elokecha et Levavcha. Hashem va circoncire ton cœur. Et donc, ça veut dire que l'être humain, à ce moment-là, il va redevenir comme Adam Arishon avant la faute, qui faisait naturellement les choses bien. De lui-même, il n'avait pas de désir pour faire des choses qui ne conviennent pas. Marqué dans le Navi Yirmeya, dit « Ine yamim baim, neum Hashem, voici des jours viennent, parole d'Hashem, vechati et bet Israël vet bet Yehuda, brit chadasha. Et je ferai avec bet Israël et bet Yehuda, je ferai une nouvelle alliance. Loka brit shekarati tavotechem, pas comme l'alliance que j'ai faite avec vos ancêtres, qui zot abrit asher echot et bet Israël, parce que cette nouvelle alliance que je vais faire avec le clan Israël, achare ayamim, ahema, natati torati bekirbam, tal libam ertevena. Parce que quand je ferai cette alliance-là, je mettrai ma Torah sur leur cœur. Je mettrai ma Torah en leur sein et je l'écrirai sur leur cœur. Ça s'appelle Bitul Yetzerara. C'est l'annulation du Yetzerara. Et donc, naturellement, le cœur va devenir une instance qui ne va diriger que le bien, que vers le bien. Et c'est pour ça que le pasuk dit Ve'aiti la'em le'elokim, ve'ma yuli le'am. Je serai pour eux leur Dieu, et ils seront pour moi un peuple. Ve'lo ilmedu od ish et re'u ve'ish et achiv les morts. Et on n'aura pas besoin d'enseigner à son prochain, à son frère, de où est Hachem, n'aurait pas besoin de lui enseigner à connaître Hachem. Kikulam yeduoti, miktanam vadgdolam. Parce que tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Biadouak, shki yetzer leva adam ra mineurav. Utsrichim, lelamedotam. On sait bien que le yetzer hara, il est là depuis la prime enfance. Et donc, il faut apprendre à lutter contre ce yetzer hara. Et là, chez Idvatel, yetzer hara, bizman aoul gamre. Mais dans cette période-là, étant messianique, il n'y aura plus de yetzer hara du tout. Le Ramban enseigne ici que dans notre temps, le temps où il y a le bien et le mal qui sont là, bon, il faut étudier, alors qu'on n'aura pas besoin d'étudier ça au temps messianique. Tout le monde saura. Pourquoi, comme c'est marqué dans le passage, Kimala Aresdea, Edat et Hashem, la terre sera pleine de la connaissance d'Hashem. Donc, on a déjà vu, et le Ramban a l'air de le redire, que Adam Arishon, lui, il connaissait grâce à la sagesse qu'Hachem lui avait donnée, il connaissait toutes les grandes choses qu'il fallait connaître de façon absolument parfaite. Il les connaissait de l'extérieur et de l'intérieur. Et quand il a fait la faute, Adam, Nidgale a sechel sheofan acher legamre shel machshava vehistaklut ruchanit. À ce moment-là, c'est dévoilé un sechel, une intelligence, qui est une autre façon de penser, une autre façon de regarder le monde, une autre façon de réfléchir spirituellement, en quelque sorte. Le Adam parfait, avec la chokhma qui était la sienne. Si on imagine cet homme parfait, là, quand il sortait de chez lui, il voyait un arbre, il voyait de l'herbe, des fleurs, etc. Immédiatement, il voyait le Créateur. C'est-à-dire, ces choses-là lui parlaient. Il lui disait qu'elles sont créées, et donc il voyait l'œuvre de la création devant lui. Il ne voit pas autrement. Ça n'a pas changé, mais seulement avec le Yetzer Hara, qui lui est devenu une des forces intérieures de l'homme. Alors il a dégringolé, Adam Arishon, il n'est plus du tout à ce niveau-là. Et quand, effectivement, cette sagesse du cœur, qu'il n'a plus, en fait, c'est pas qu'il ne l'a plus du tout, bien entendu. Parce que il y a bien entendu des niveaux différents. Toutes sortes de niveaux de sagesse, en fait. Mais comme en tout cas, ça a été très fortement affaibli, il faut. Le Malgar, le Rav Volbe, il expliquait comme ça. Il disait, regarde, nous, l'eau, on la voit seulement quand on voit vraiment de l'eau. Mais quand on analyse plein d'autres choses, on voit aussi qu'elles contiennent de l'eau. Mais on ne voit pas l'eau. On voit pas l'eau dans, je sais pas, dans un os, on voit pas l'eau qu'il y a. L'H2O qu'il y a dedans, on la voit pas. Mais elle est là. Adam Harishon, il aurait vu l'eau. Il voyait toutes les choses telles qu'elles étaient, en vérité. Tout le corps, tout notre corps est plein d'eau. On ne voit pas, quand vous voyez votre voisin ou que vous voyez vous-même, vous ne voyez pas de l'eau. Pourtant, elle est là, il y a 80% d'eau. Plus peut-être, je sais pas. Donc, il y a un sechel, une intelligence qui s'est dévoilée chez l'homme à ce moment-là. C'est sûr que c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était là. Seulement, quand il y avait la fameuse sagesse du cœur, ce sechel-là, hein, il ne servit, il n'était pas utile. C'est pas de ce cerveau-là, de ce cerveau-là que Adam se servait. Et du coup, tout le travail, toute la avoda d'Adam et toute la avoda des hommes par la suite, elle est basée sur ce cerveau-là. Mais ce cerveau-là, il fonctionne complètement différemment de la Chochmat Lev qu'il y avait chez Adam avant, et qui, elle, est passée au second plan aujourd'hui. Quelqu'un qui vit selon son cerveau, il n'est pas du tout évident qu'au premier regard, il va reconnaître le Créateur. Mais maintenant, quand on réfléchit, il va réfléchir, va trouver des preuves ou des contre-preuves, etc. Chercher, appliquer les principes de causalité. Après, on va apprendre que la causalité, c'est pas ce qu'on croyait qu'elle était, etc. Et puis, bon, si on veut garder la terminologie d'Aristote, ou voilà, finalement, il arrivera à une cause première. À ce moment-là, par ce type de raisonnement, il va reconnaître le Créateur, disons. Alors, quand il va y avoir beaucoup de preuves, de réflexions qui sont faites là-dessus, alors ça deviendra une évidence en quelque sorte, et ça va maintenant entrer dans le cœur, et donc ça va guider le cœur, c'est l'organe qui décide, ça va être dans le cœur. Donc dans le cœur, il y aura à la fois le Yetzirah, mais aussi le Sechel. Donc ils vont s'opposer pour essayer, chacun va essayer de gouverner. Ça, c'est le Sechel, c'est donc la situation après la faute. Ça, c'est lié à la notion de limoud, d'étude. Il faut ajouter un savoir à un autre savoir, etc. Progressivement, une pensée à une pensée, jusqu'à ce qu'on arrive au but. Jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui est proche de la fameuse Chochmat Lev, de la sagesse du cœur, qui existait chez Adam Harishon au départ. Alors, on voit bien, d'accord. Le Sechel, c'est bien l'organe grâce auquel on va pouvoir apprendre. Mais on sait bien que le Sechel, il est limité. C'est-à-dire, en fait, le Sechel ne fonctionne bien, même rationnellement, etc., que si c'est un sujet où il n'y a pas ce qu'on appelle les négiot, c'est-à-dire où l'homme n'est pas, en quelque sorte, où son raisonnement n'est pas faussé parce que par ses intérêts, par d'autres envies, par d'autres midot qui sont là. Parce que dans ce cas-là, le sechel, il n'est pas capable de fonctionner normalement. Il n'est pas assez fort pour aller contre ses midot. Le Gaon écrit dans son commentaire de Michelet qui ein lismor klal ala sechel a enoshi. On ne peut pas du tout s'appuyer sur le sechel humain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Gol el Hashem ma'asecha. Littéralement, ça veut dire dévoile à Hashem tes actions. C'est-à-dire, il faut t'appuyer sur la Torah. Sur la Torah et sur les mitzvot. Et donc, dans chaque action que tu vas faire, il faut savoir qu'est-ce que la halakha dit dans ce domaine-là et se conduire en fonction de ce que la halakha dit. Ça, c'est le Emet, c'est vrai que c'est comme ça. Parce que s'il n'y avait pas la fameuse phrase qui dit Igid lecha adam matov ou ma Hashem elokecha doresh mimcha, si on n'avait pas ce pasuk qui dit homme, on va te raconter, toi, l'homme, ce qui est bon. Et on va aussi te dire ce que Hashem ton Dieu demande que tu fasses. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut de toi, plus exactement? Puisqu'on n'a plus la chokhma, chokhma talev, on n'aurait pas su du tout. On n'aurait rien su, on ne sait pas. Sur le sechel, on ne peut pas s'appuyer. Donc on n'a que la Torah qui est ce dont on parle quand on dit on va te raconter, on va te dire à toi, l'homme, comment tu dois te conduire. Donc, ça se passe de la manière suivante. Lorsqu'Adam Arishon s'est cassé la figure et qu'il a perdu cette chokhmat lev, il a perdu cette sagesse du cœur, et que ce sechel en lui s'est dévoilé, en fait. Alors, bien sûr, on a dit que le sechel n'est pas suffisant. Akadosh Baruch Hu a ajouté, il nous a donné la Torah en plus. Et dans la Torah, on arrive à ce Higid Lecha. La Torah va me raconter ce qui est bien. C'est-à-dire m'enseigner en utilisant le Sechel, la Torah. Et la Torah est l'étude, au sens du Ramban, vont amener l'homme à retrouver quelque chose comme la situation de la Chokhma initiale. Dans cette notion de l'Imoud, il faut apprendre en réalité. Ce qu'on a lu dans le Ramban, cette nécessité d'apprendre. La vérité, c'est qu'on peut dire que tout est toujours objet d'apprentissage. Tout, il faut tout apprendre. C'est-à-dire, en vérité, naturellement, on fait pas vraiment ce qu'il faut. Il faut apprendre. La Gemara, elle dit que si quelqu'un se trompe, et il est ce qu'on appelle Omer Moutar. Il se trompe, il dit cette chose-là est permise. Il veut pas, il croit sincèrement, il se trompe. Il dit Omer Moutar. La Gemara, elle dit qu'il est un pochéa, c'est un voyou. D'après une opinion dans la Gemara. Pourquoi? Il se trompe, il est de bonne foi, il se trompe. Pourquoi il serait un voyou pour autant? Parce que la Gemara, elle dit, il y a l'olin mode. Il aurait dû apprendre. C'est le nul n'est censé ignorer la loi. Puisqu'on t'a donné une Torah, donc tu sais ce que tu dois faire. Tu vas regarder dans la Torah. Et Omer Moutar, celui qui dit c'est permis, dit, pourquoi il le dit? Il dit parce qu'il a réfléchi et il est arrivé à la conclusion que c'est permis. C'est un voyou parce qu'il n'est pas allé regarder là où il faut regarder. Ouvre un sefer, ouvre le livre, il regarde. Nous, on est dans ce temps d'après la faute. On n'a que la Torah et donc l'obligation d'étudier et l'obligation d'apprendre. Alors maintenant, il faut dire que avec la Torah, avec cette obligation qu'on a d'apprendre, on arrive au but, parce que si même avec ça on n'arrive pas au but, alors qu'est-ce qu'on veut de nous? On est obligé de dire qu'on arrive au but. Par l'étude de la Torah, on y arrive. Là, bien, on en revient à ce fameux Rambam. Dans le livre de Tshuva, le Rambam dit Maouze She Amar Tovi Yashar Hashem Alken Yore Chataim Baderech. Comment il faut entendre ce verset qui dit que Hashem est bon, il est droit? C'est pour cette raison que il va guider les gens qui, au sens là, ferait des fautes. Ze sheshalach neviim lahem. Odim darki Hashem, marzirin otam b'tshuva. Rambam dit, c'est quoi? C'est que Hashem a envoyé les prophètes. Les prophètes, ils n'ont rien inventé, n'est-ce pas? Les prophètes n'avaient pas le pouvoir d'inventer des nouvelles lois. Seulement, ils avaient le pouvoir de nous faire des remontrances, et puis ils avaient le pouvoir éventuellement d'expliquer les lois. Peut-être ils trouvaient des images ou des façons d'expliquer les choses, peut-être les mettre au goût du jour, qu'on les comprenne mieux. Ça, c'était leur boulot. Et le fait qu'Hachem nous ait envoyé des Nevi'im, c'est comme ça que on comprend que voilà, c'est comme ça Hachem nous a envoyé des Nevi'im pour nous mettre sur le bon chemin. Ve'od, shenatan ba'em koach l'ilmod ou le'avin. Et deuxième chose, Hachem n'a pas seulement envoyé des gens, des prophètes, mais il nous a donné la force d'étudier et de comprendre. Et ça, c'est une vita qui existe chez tout le monde. Kolzman chez Onimshach, Darkia Chochma va Tzedek, Mitavelaen de Rodefotam, ou Machambrou Abotenuzal, Baletaer Mesainoto. Klomar, Imtsa Atzmo Nezar Ladabar. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit que celui qui veut bien faire, on l'aide. Hachem l'aide, il lui envoie des prophètes, ou il lui envoie la force d'étudier et de comprendre. Dans une situation où on a devant nous un choix permanent entre le bien et le mal. Alors, beaucoup nous aide. La situation dans laquelle on est, c'est que le bien et le mal existent ensemble. C'est-à-dire que parfois, ils sont complètement intriqués, complètement mélangés. Et du coup, par rapport à ça, on peut s'appuyer ni sur notre sagesse, ni sur le Sechel. Parce que c'est tellement intriqué. Malgré ça, Hachem ne nous a pas abandonnés. Et il nous a donné la Torah et des prophètes, qui enseignent à l'homme ce qu'il doit faire, ce qui est bien. Et aussi la force de comprendre, comme on l'a vu, d'étudier, de comprendre. Et avec ces deux choses-là, on arrive quand même au but. Même si le bien et le mal sont aussi intimement mélangés. C'est ce qu'Hachem dit. Ré, vois, natati lefanecha et abracha et aklala, achaim v'amavet, ou bachartam bachaim. Hachem dit, vois, regarde, j'ai mis devant toi la bracha et la klala, la vie et la mort, choisis la vie. Donc il y a vraiment deux chemins qui nous sont proposés au clan d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il nous aide à choisir le bon chemin. C'est-à-dire, il doit choisir la vie. Alors c'est vrai que un homme sans Torah est pratiquement obligé de mal faire. Parce qu'il n'y a pas de sagesse du cœur, pas de sagesse innée, si on veut. Le Sechel, on arrive facilement à le rouler, c'est-à-dire à lui faire prendre des cipots des lanternes, c'est-à-dire il y a des midotes qui font que le Sechel il fonctionne pas normalement. Il produit pas la vérité. Il est trop influencé. Si le Sechel n'était pas influençable, ben lui tout seul, il nous dirait ce qu'il faut faire. On y arriverait. Puisqu'on est Tselem Elohim quand même, on n'est pas des mottes de terre ou des brins d'herbe. Mais curieusement, dans toute l'humanité, si on peut parler comme ça, il n'y a qu'Abraham qui a vu, que tout le monde pouvait voir ce qu'il a vu. Il n'a rien vu d'extraordinaire. Lui, il est arrivé par son Sechel. Il n'a pas reçu de Torah, il n'a pas reçu de voix. Lui est arrivé par son Sechel. Ça veut dire le Sechel humain peut nous amener. Pourrait nous amener à faire le bon choix. Mais des dizaines de milliers de personnes ont fait le mauvais choix. Et même les meilleurs d'entre eux, les gens qui ont eu une recherche sincère, etc., certains ils sont arrivés à comprendre une partie des choses. Une goutte de vérité, en quelque sorte. Mais après, bon, ils ont été noyés par les autres, quoi. Bon, maintenant, nous, on a reçu la Torah. On a une situation différente. Donc on n'est plus obligé de mal faire. est capable de bien faire. Donc, même celui qui. Donc, du coup, maintenant, celui qui dit. Parce que là, ça s'appelle Omer Moutar. Celui qui dit, c'est permis, mais il se trompe. Lui, il a dit, c'est permis, en ayant bien réfléchi. Et il est arrivé à la conclusion que c'est permis. Et là, néanmoins, on va dire, ben, puisque tu as un sechel, mais je t'ai donné la Torah. Tu as un sechel, le sechel ne suffit pas. Je t'ai donné la Torah. Et du coup, si tu n'as pas étudié la Torah, tu n'as pas consulté la Torah avant d'agir, alors tu es un voyou. Maintenant, cette Torah, la Gemara dans Kiddushin, qu'on a vu effectivement, la Gemara dit la chose suivante. Tanou Rabbanan. Le Samtem. Ça veut dire, vous poserez. C'est-à-dire que. Le Samtem. Alors, la Gemara, elle découpe le Samtem en Sam. C'est-à-dire un sam, c'est un ingrédient tam qui est entier, ça veut dire auquel il ne manque rien, dit Rashi. La Torah, elle est considérée comme, on dit en français, élixir de vie. Un sam chayim. Machal l'Adam, Marel dit, comme Machal, voilà, c'est un homme qui a frappé son enfant et il l'a frappé trop fort. Alors il lui met un pansement et il lui dit, mon fils, tant que ce pansement sera sur ta plaie, tu peux manger ce que tu veux, tu peux boire ce que tu veux, etc. Tu peux prendre les douches que tu veux, etc. Va rien t'arriver. Et si tu enlèves le pansement, immédiatement, ça va s'infecter. Dit la Gemara, Kach HaKadosh Baruch Hu Amar Lahem l'Israël. Baruch Hu a dit au Bnei Israël, Barati Yetzerara. J'ai créé le Yetzerara. Le Yetzerara, bien entendu, ce n'est pas une force indépendante. Akadosh Baruch Hu est boré ra. Hachem a créé le mal. Pour les raisons qu'on a dites, c'est-à-dire créer le mal pour qu'il y ait un mérite à choisir le bien. J'ai créé le mal. Bon, mais alors, si tu as créé le mal, comment on se débrouille avec ce mal? Quelle solution est-ce qu'on a? Alors, Hachem dit au Bnei Israël, il leur dit tout de suite, selon l'exemple qui a été donné. Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé pour le mal une Torah qui est un tavlin, qui est une épice. Vimatem oskim ba Torah enatem nimsarim biyado. Si vous vous occupez de Torah, vous ne serez pas livré aux mains du Yetzerara. Vim enatem oskim ba Torah. Et si vous ne vous occupez pas de Torah, vous serez livré aux mains du Yetzer Hara. Et pas seulement ça. Et là, c'est kol masao matano becha, si mata rotse ata moshelbo. Plus, le Yetzer Hara, il n'a qu'un seul souci, c'est toi. Et si tu veux, tu peux le dominer. Donc, s'il dit si tu veux, qu'est-ce que ça veut dire si tu veux? Asok ba Torah, v'ata moshelbo. Et tu lis la Torah, occupe-toi de Torah et tu domineras. Cette Mara, elle est un peu. elle est un peu dure parce que elle dit très clairement que sans Torah, on est livré aux mains du Yetzirah. C'est pas que sans Torah, ça sera très difficile, etc. Même l'image de cette Torah qui est Tavline. Tavline, c'est une épice. Une épice, c'est fait pour rendre consommable quelque chose qui n'est pas vraiment bien consommable autrement. Et donc, si la Torah est un tavline, ça veut dire la Torah, elle rend le Yetzirah consommable. C'est-à-dire, le Yetzirah, avec la Torah, il est mis au service d'Hachem. C'est pas du tout que la Torah, elle vient éradiquer le Yetzirah. La période où il n'y aura plus d'Yetzirah, on a vu, ça c'est Olam Haba. Pardon, c'est les temps messianiques, excusez-moi. Jusque-là, il y a toujours le Yetzirah. Parce que le Yetzirah, c'est un moteur du monde. On ne peut pas faire l'économie du Yetzirah. La Torah ne te propose pas du tout d'en faire l'économie. Elle te dit, j'ai créé une épice. Et c'est intéressant parce que c'est jamais qu'une épice. Ça veut dire que quand tu utilises une épice, c'est pas l'épice qu'on mange. On mange la matière, enfin, le plat qui est épicé, qui est devenu mangeable grâce à l'épice. Donc ça veut dire que c'est le Yetzirah qui va vraiment être utile. C'est pas finalement, il va être au service de l'épice, quoi. Pas du tout. Grâce à l'épice, grâce à la Torah, le Yetzirah est récupérable. Et ça, c'est l'ordre du monde. L'ordre du monde, c'est que le Yetzirah est là, mais que, comme on dit aujourd'hui, il faut faire avec, mais faire avec, ça veut dire, ça n'est possible que si on utilise la Torah. Sinon, c'est lui qui fera avec nous. C'est très fort. La Gemara ici, elle dit, la Gemara dans Kiddushin, elle ne fait pas de cadeau. Elle dit, ou tu t'occupes de Torah et tu maîtrises le Yetzirah, ou tu t'en occupes pas, c'est lui qui te maîtrise. Il n'y a pas de troisième voie. Alors, la Torah est donc une certaine épice. Alors, on va essayer de regarder un peu comment elle fonctionne, cette épice. La Gemara a l'air de dire que si quelqu'un s'occupe de Torah, vit dans la Torah, etc., il n'a pas à craindre de son Yetzirah. Il dit, tu peux manger ce que tu veux, tu peux boire ce que tu veux, tu peux fonctionner complètement, aucun problème. Tu n'as pas à avoir peur de l'impact du Yetzirah. La Torah, elle te protège. C'est-à-dire, il ne va pas y avoir d'invasion du Sehel par le Yetzirah qui va fausser le Sehel. C'est toi qui domines, donc le Sehel va pouvoir fonctionner normalement. Celui qui vit dans la Torah, qui a donc les yeux ouverts, et qui regarde dans quel état il est, il se voit, il se regarde évoluer avec la Torah. Il est, premièrement, il est entouré, d'une certaine manière aussi protégé par les mitzvot. D'abord par des dinim, d'Halakhot. Qui obligatoirement vont améliorer sa conduite, qui vont le mettre sur des meilleurs chemins. On voit bien que, comme on dit, Ein Kachem Elokeinu, Borea Nefesh ou Borea Olam, il crée l'homme, il crée le monde, et Hachem peut faire en sorte qu'il y ait une correspondance harmonieuse, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à s'élever au-dessus de toutes les petitesses et de toutes les servitudes qui viennent de la matière, en fait. Comme Achila, Shtiya. Chazal disent Vita dishtem, vous sanctifierez les maim rishonim. C'est la netilat yadaim qu'on fait. Et la bracha qu'on fait à la netilat yadaim, ça commence, c'est ça, la sanctification en quelque sorte. Ensuite, on fait motzi. Et on nous dit que le shulchan, la table de chacun, elle ressemble au misbéach. C'est-à-dire, même que sur le Mizbéach, il y a toutes sortes de règles de ce qui peut aller sur le Mizbéach et ce qui ne peut pas y aller. Il y a aussi des règles, ce qui peut aller sur la, mettre sur la table, ce qui ne peut pas être sur la table. Chose qu'on a le droit de consommer, d'autres choses qu'on n'a pas le droit de consommer. Vitem Kdoshim, c'est Maïm Achaonim. C'est-à-dire, avec toutes les lois, gouverne la façon dont on mange, etc. Et le Birkat Amazon. Donc, chaque fois qu'on vient en collision, en quelque sorte, avec les besoins du corps, c'est-à-dire la matérialité qui se manifeste, la Torah, elle te dit, voilà comment il faut traiter le problème. Voilà comment il faut traiter le problème. On ne te dit pas d'aller contre nature. Tu manges, tu bois, tu as des relations conjugales. Personne ne te demande de choisir la voie de se priver de toutes sortes de choses. Il est hors de question de se priver, par exemple, de relation conjugale. Les gens sont protégés, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas agressés. Le Yetzer, il essaye. Le Yetzer, il n'a pas baissé les mains, il ne baisse pas les bras parce que quelqu'un il ouvre sa Gemara. Il va essayer de le distraire, de l'empêcher d'étudier vraiment. À ce moment-là, il aura de nouveau gagné. L'étude de la Torah, c'est pas de la magie, si vous voulez. C'est une étude qui doit nous transformer. Transformer, ça veut dire je deviens quelqu'un qui mange, mais qui mange autrement. Qui boit, mais qui boit autrement. Alors, ça, c'est la transformation. Mais jusqu'à ce qu'il y ait transformation, il y a un long chemin. Et ce chemin, il est parcouru. Enfin, il y a plein d'embûches. Parce que le Yetzirah, il ne baisse jamais les mains. Au contraire, le Yetzirah, il est presque toujours une guerre en avance. Plutôt, nous, une guerre en retard. Parce qu'on comprend, hein, là, je me suis cassé la figure. Comme vous dites, moi je me suis relevé parce que c'est effectivement ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'on va à coup sûr ne jamais tomber. Ça n'existe pas. La Torah dit que tout le monde fait des fautes. Mais le problème, c'est, si vous voulez, il y a toujours cette question de quand on fait une faute et qu'on prend conscience de la faute, la tentation, je dirais, c'est de d'en être attristé. C'est pas qu'il faut sauter de joie. Seulement, il y a une procédure. Et il faut savoir que la tristesse consécutive à la faute, elle est plus grave que la faute elle-même. Parce que la Torah, il est clairement dit dans la Torah que la Torah, elle doit se vivre dans la Simcha. Vivre une Torah triste, c'est une grande faute. On a presque l'impression, je dis presque parce que, mais quand on regarde ce qui est écrit sur les calottes, les calottes de Kitavo, dans le Sefer Bamidbar, de Sefer Devarim, pardon, on voit très bien que les tuiles qui nous arrivent là, elles viennent pas du tout du fait qu'on n'a pas fait les choses, mais du fait qu'on ne les a pas faites avec simcha, avec joie. Donc si vous voulez, le grand problème, c'est de savoir je vais tomber, mais d'avoir suffisamment étudié la Torah aussi pour savoir que l'important c'est de se relever. Alors il faut pas se relever en disant ça n'a pas d'importance. Et, voilà, bon, c'est pas très grave. Non, c'est grave. C'est grave, mais Hachem nous a donné une Torah dans laquelle il existe des procédures pour se relever, des procédures qui ont pour fonction de nous redonner à chaque fois des pages blanches. C'est une des fonctions du Korban Tamid, je crois que vous l'avez déjà dit souvent, le corban qu'on apportait tous les jours, le matin et le soir, une des fonctions de ce corban tamid, c'est pour celui qu'on apporte le matin, c'est de nous donner une page blanche, c'est-à-dire une page qui ne soit pas obérée par ce qu'on a fait de tordu dans la nuit. Et à la fin de la journée, on nous donne pour la nuit une page blanche qui ne soit pas déjà gribouillé, si vous voulez, par tout ce qu'on a fait dans la journée. Donc, vous en comprenez ? La Torah, elle dit, je veux que, non seulement une fois par jour, mais deux fois par jour, pour la partie diurne, comme pour la partie nocturne, je veux que tu aies une page blanche. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que si j'ai tué mon voisin, le lendemain matin, la page, elle est blanche. Et pour toutes les fautes standards, si on peut parler comme ça. Voilà, la page est blanche, mais je te donne une page blanche, comme ça veut dire je t'aide, à condition que toi, tu aies fait ce qu'il faut, tu aies fait tchouva. Mais la tchouva, c'est pas quelque chose qui doit attrister. C'est un processus, on peut pratiquement le faire dans la joie, dans la mesure où on prend conscience qu'Hachem m'a donné une possibilité de réparer, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de suite négative de ce que j'ai fait. Normalement, si j'ai fait quelque chose de d'interdit, bon, bah alors j'ai cassé quelque chose dans le monde, et donc du coup, mon monde, il est abîmé. La Torah dit, tu peux faire tchouva. Et il y a même une possibilité de faire tchouva est tellement puissante que ça va transformer le mal que tu as fait en bien. Alors, c'est presque incompréhensible. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est la puissance de l'homme qu'Hachem a donné à l'homme, une puissance de faire tchouva et de pouvoir réparer ce qu'il a mal fait. Et bien sûr, il y a un impact de ce qu'il fait mal, mais c'est réparable.
Donc il n'y a pas une pression particulière du Yetzer Hara sur les tzadikim.
Si, bien sûr. Et Yetzer Hara, il a avantage à faire tomber le général plutôt que le piou-piou. D'accord ? Ça veut dire, si on fait tomber un maître, le maître il risque d'entraîner dans sa chute pas mal d'élèves. Mais si on fait tomber le petit dernier là-bas, et lui, il n'aura peut-être pas d'impact. Et lui va tomber, d'accord, mais ça n'aura pas un impact sur les autres. Mais quelqu'un qui a un impact sur ses élèves, s'il se casse la figure, il risque d'entraîner les élèves aussi à se casser la figure.
Mais je crois que c'est Einstein qui disait « Dieu ne joue pas au dé ». Parce que ici, c'est quand même très dangereux, puisque c'est Hachem qui a créé le mal. Donc, s'il donne autant de pouvoir au Yetzirara, ça peut mal tourner, là, l'affaire.
Oui, parce que s'il ne donnait pas autant de pouvoir au Yetzirara, alors ça ne serait pas balance, ça serait pas équilibré. Donc, si c'était facile de lutter contre les Yetzirara, parce qu'à l'évidence, il ne fait pas le poids devant les Yetzir Tov, ben, c'est inutile de mettre les Yetzirara là-dedans. On n'est pas idiot. Donc il faut que c'est toujours cette fameuse idée. On peut s'élever très haut, mais on peut aussi tomber aussi bas. C'est complètement symétrique. Zé l'omad zé asa elokim. Hachem a fait les choses complètement symétriquement. On peut t'élever, mais plus. Enfin, quelqu'un qui peut s'élever très haut, il peut aussi tomber très bas. Donc les Yetzirah, bien sûr, il va a priori. S'attaquer, si vous voulez, si on peut parler comme ça, il va poser des problèmes au maître, à celui qui a des élèves, qui, si effectivement il entraîne ses élèves à mal faire, un bonhomme comme Shabtai Tzvi ou comme ça, il a entraîné la moitié du clan d'Israël dans le mauvais sens, donc c'est absolument terrible. Certainement, c'était un grand bonhomme, c'est pour ça qu'on a pu le faire tomber si bas. Il avait des possibilités d'être très grand. Mais la preuve, c'est qu'il regardait où il peut tomber, où il est tombé. Donc, l'étude de la Torah, c'est une entrée vers une protection d'Hachem qui va nous aider. On n'y arrive pas si Hachem ne nous aide pas. La Gemara qui dit que le Yetzer Hara, il se renouvelle tous les jours. Parce que je vous ai dit que lui, il se renouvelle, donc on est toujours une guerre en retard. Et c'est marqué, Reish Lakish dit, mais si Hachem ne nous aidait pas, on serait déjà vaincu tous les jours. Mais Hachem nous aide, comme on a vu, Hachem me saïa, il nous aide. Si nous faisons un pas dans la bonne direction, il faut qu'on veuille faire tshuva. Vous savez, je vous ai déjà dit, dans la Amidah, dans la Shemoneh Esrei, on demande à Hachem de nous aider à faire tshuva. Hashiveinu Hachem le Torah. Je vous ai dit, quand j'étais plus jeune, je me demandais toujours, mais c'est quoi cette demande? C'est mon job de faire tshuva. Qu'est-ce que j'ai un job et puis je dis à Hachem, aide-moi à le faire. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'on ne peut pas le faire si Hachem ne nous aide pas. Vous ne pouvez pas faire tshuva si vous êtes dans un environnement qui est complètement hostile. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, mais on n'y arrive pas vraiment, ou ça prend toute l'énergie. Donc, de faire en sorte que nous ne soyons pas dans une situation inextricable, bon, c'est comme ça qu'Hachem nous aide. Mais quel que soit l'endroit où on est arrivé, il nous a déjà aidé, parce qu'a priori, ça ne devrait pas marcher. Et le Sarah, il est plus fort. Alors, il faut montrer que je veux bien faire, je veux me rapprocher d'Hachem. Et je commence. Mais en réalité, je devrais me casser la figure déjà au premier tournant. Hachem me m'aide, peut-être que je me casserai la figure seulement au deuxième. Et puis après, il m'aidera peut-être à me relever, et puis je réessayerai. Et puis peut-être que je me recasserai la figure au deuxième tournant. Je réessayerai, et puis peut-être j'aurai gagné un. La prochaine fois, j'irai jusqu'au troisième. Et tout ça, il faut le faire avec le sourire, ça veut dire avec la conscience qu'Hachem m'aide. C'est ça la joie que j'ai, c'est que voilà, c'est Hachem qui est en train de m'aider. Même, en fait, comme, dans la chose qu'on a vue ici, c'est que chaque fois que on se rend, on a affaire avec son corps. Il faut manger, il faut boire, etc. Le corps, il ne va pas dans le bon sens, si vous parlez comme ça. Le corps, il est matériel, et donc il recherche une satisfaction immédiate. Et donc, la Torah, elle a mis dans toutes ces situations des gdarim, des barrières. Des mitzvot, ou d'abord des barrières, etc., des dinim, qui font que on est déjà aidé sur ce plan-là. On est aidé. Après, encore, on n'est pas devenu des robots qui ne peuvent faire que le bien. Hachem t'a dit, fais cette mitzvah. Ok, mais bon, ben, peut-être que je lutte beaucoup pour arriver à faire cette mitzvah. Parce que je n'ai pas tellement envie. Je n'ai pas obligatoirement envie de faire la mitzvah. Parce qu'il y a des intérêts. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les négiot. J'ai même interdit de prendre la femme du voisin, mais peut-être elle est vachement désirable et qu'elle est tout à fait d'accord, etc. La Torah, elle dit, mais tu n'as pas le droit, quoi. Alors elle va te dire, comment on fait pour... On va mettre un peu de barrière, quoi. D'abord, tu vas veiller à ne jamais être seul avec elle dans un lieu fermé. Première chose. Éventuellement, tu lui parleras pas que des choses absolument nécessaires. Donc, quelque part, l'entrée en matière, elle va être difficile. Il restera pas moins que il y aura du désir. La Gemara, elle raconte que la Gemara, dans tout cas, elle raconte que Abaye, il a entendu un jour un homme et une femme qui disait, ben tiens, ça va bien, demain on fait une partie du chemin ensemble. Toi tu vas là et moi je vais là-bas, mais il y a une partie du chemin qui est commune. Et Abaye s'est dit, je vais suivre ces deux-là parce que ça va mal tourner. Et il les a suivis. Et ils sont arrivés au point où ça divergeait, chacun partait. Et il avait entendu que l'un disait à l'autre, c'était très sympa, on a bien discuté, etc. Je te souhaite bon voyage. Et l'Agmara, elle raconte qu'Abaye est rentré chez lui, il s'est appuyé sur les poteaux de sa maison, il s'est mis à pleurer. Alors c'est marqué qu'il y a un vieillard, en général le vieillard c'est Elia Wanavi, venu, qui lui a dit, pourquoi tu pleures? Il dit, mais moi, si j'avais été la place du bonhomme, j'aurais jamais laissé partir la femme toute seule. Elia Onavi lui a dit, mais c'est normal. Plus on est grand, plus il y a de Sarah est grand. C'est-à-dire le grand Abaye, qu'est-ce qu'il a à faire, quoi. Il se dit, moi, si j'avais fait un bout de chemin avec une femme, je ne l'aurais jamais laissé partir. C'est Abaye. Un des superstars de la Gemara, si vous voulez. Un grand maître. J'aurais pas pu. Mais le gars, on lui dit, c'est très bien. C'est pour ça que c'est pas toi qui étais dans la situation. La famille t'a protégé. Tu as vu que c'est possible. Donc à la limite, cette expérience, elle peut peut-être t'aider. Si jamais il y a un moment où tu n'as pas pu faire autrement, tu t'es retrouvé à la croisée des chemins avec quelqu'un qui a fait un bout de chemin, etc. Et que la tentation vient, tu pourras au moins te dire, je ne suis quand même pas plus petit que l'autre là qui est capable de le faire. Ça va peut-être t'aider à résister. Il ne faut pas avoir peur de reconnaître qu'on a un Yetzirah. Il ne faut pas se pavaner. On est obligé de dire ah ben il n'est pas allé crier sur les toits. Ça a quand même été mis dans la Gemara, parce que c'est une leçon pour nous. La Gemara, elle est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'on aurait pu le raconter de façon anonyme. C'est-à-dire que Abaye était d'accord qu'on raconte ça sur lui. D'accord? Il aurait très bien pu empêcher qu'on raconte. D'abord, ça ne s'est su que parce que lui l'a dit, c'est pas Eliyahu HaNavi qui est venu le raconter. C'est lui qui l'a enseigné, qui l'a dû le dire. Il a accepté que ce soit aussi même mis pour l'éternité. Pour l'éternité, c'est marqué qu'Abaye, lui, il aurait eu du mal. Mais c'est pour nous aider. C'est pour que je sache que moi aussi, j'aurais eu du mal. Il n'y a pas de honte à avoir eu du mal. L'important, c'est d'être capable de le maîtriser. Et une des façons de le maîtriser, c'est d'avoir étudié la Gemara, qui dit que c'est possible, que c'est très difficile, que même Abaye il aurait eu des problèmes, et que c'est possible. Tout ça, c'est tout l'enseignement de la Torah. On est entouré de mitzvot qui nous aident. Formellement, là-bas, ça ne nous aidait pas tellement parce que ils ne sont pas dans une pièce, ils sont dans la rue, ils marchent, a priori, c'est peut-être la nuit, ils sont partis très tôt, le soleil n'est pas encore levé et tout. Ah, c'est juste pour qu'on sache que ça existe. Mais ça, il existe. Mais on peut le vaincre parce que la Torah, elle nous aide si on veut commencer en tout cas. Mais le Yetzirah, il a des tours et des tours. Et aussi, vous allez faire des barrières, etc. Mais peut-être la barrière, elle n'est pas assez haute. Elle est pas assez, il n'y a pas assez de barbelés là, on n'est pas mis assez de barbelés. Celui qui s'occupe de Torah, lui, il va pouvoir choisir entre le bien et le mal. Il va pouvoir choisir le bien. Donc, il est vraiment libre par rapport à son Yetzirah. C'est le fameux Charut al Luchot, ce qui est gravé sur les Luchot, ce qui veut dire Charut al Luchot. Il n'y a pas d'autre chemin pour être Ben Chorin. Le seul chemin, c'est la Torah. Dans le Kuzari, quand le roi interroge le Chaver, il interroge le juif en fait, et lui demande c'est quoi la piété, c'est quoi un pieux chez vous? Alors il lui a répondu Chassid ou Moshel al-Goufo ve'evarav. Chassid, c'est celui qui maîtrise son corps et ses membres. Chazar ve'shal oto. Alors, kol al chassid, chashlim ticha, velo al moshel. Je t'ai interrogé sur un chassid, je t'ai pas interrogé sur quelqu'un qui domine son corps. Alors, le rabbin lui a expliqué que chassid, chez nous, behemet, c'est moshel. Zehu koach haTorah ve zehu matarata. La zo, la dame, la soto, ולשלוט על עצמו, לבל יהיה כפוף את אבותיו ויצחק. יהיה בעל בחירה באמת. C'est-à-dire, le chassid, ce n'est pas quelqu'un, le kouzari, visiblement, le roi, il s'attendait à ce qu'on lui dise, c'est quelqu'un qui a maîtrisé, qui a plus de pulsions, de trucs. Il dit, chez nous, ce n'est pas du tout ça. Chez nous, c'est quelqu'un qui est Moshen. Moshen, il domine presque par violence son Yetzerara. C'est toujours Moshel, c'est jamais Mela, parce que le Yetzera n'est jamais d'accord qu'on le maîtrise. Donc c'est ça le développement de l'être humain. Au départ, dans sa jeunesse, dans son enfance, il n'y a que du Yetzera. Yetzer Tov, il s'éveillera seulement quand il arrivera à l'âge des mitzvot, à la bar mitzvah. Et à l'époque du Yetzer Hara, c'est une époque où il est complètement dans Yetzer Hara et on lui enseigne la Torah, on l'habitue à aller dans les chemins de la Torah, au point que quand il va avoir plus de sechel et que le Yetzer Hara donc, face au Yetzera, il saura choisir le bien et pas le Yetzera. Comme ça que le Ramchal, dans Der Etzer Chaim, Ramoshe Chaim Lutzato, dans le Koubal, donc, il explique le pasuk Mipi Ololim Yomkim et Sabta Oz. C'est-à-dire, Ololim et Yomkim, c'est les nourrissons. Tu as fondé la force. C'est-à-dire, c'est justement un enfant qui est en fait complètement livré au Yetzer Hara, parce qu'il n'y a que le Yetzer Hara à cette époque-là. Et la chaîne Maasav Nechavim. Mais bon, ces actes ne sont pas vraiment significatifs à cet âge-là. Mipi Viasa d'abord Olam Uza Shel Torah. L'ilmod Vila Sokbav. C'est-à-dire, c'est à cette époque-là qu'on lui enseigne. On lui enseigne la Torah, on lui enseigne la force de la Torah pour qu'il apprenne à s'occuper de Torah et ainsi d'être cassé, d'être capable de casser le Yetzirah, de se libérer complètement du Yetzirah. Jusqu'à ce que quand il grandit, quand il va grandir, il va vraiment être Ben Provin. Haruta l'aluchot, c'est la force de la Torah, son intention et son le sujet de la Torah. C'est ça qu'on dit quand on dit qu'il est Ben Provin. C'est ça ce que je voulais vous dire. Je vous dis, c'est un enseignement du Rav Volbeh sur le chérout qu'il y a, la dimension de chérout, de liberté. Qu'il y a dans la Torah. Il y a une liberté sans Torah. C'est la liberté du premier jour, là, où il n'y a pas encore de lien avec la Torah. Et celle-là, elle est destructrice. On voit très bien que il y a plein, quand les gens ont le loisir de faire n'importe quoi, par exemple, les problèmes, toutes les questions de suicide chez les enfants de parents très aisés, etc., ils ne savent pas quoi faire, ils finissent par se suicider. Le taux de suicide est beaucoup plus grand chez ces gens qui ont... Quand on en est à chercher sa subsistance, on n'a pas le temps de réfléchir à pourquoi je vis, etc., et éventuellement envisager le suicide. On est occupé d'autre chose. Il ne peut pas penser, c'était ce que Paro avait bien compris. C'est pour ça qu'il a assommé les Bnei Israël de travail pour qu'il n'ait pas le temps de penser. Voilà. On va s'arrêter là.